RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Allez, camarades de Lyon, c'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir d'être là au Palais de la Bourse depuis 9h ce matin. On est là pendant encore une heure.
Ils ont mis l'ambiance, hein. Moi, je trouve qu'il y a plus d'ambiance qu'à Marseille. Mais alors, gros défi pour les Niçois.
Ah, parce que lundi prochain, on sera à Nice. Là, je jouerai à domicile. Et j'espère que le défi sera relevé. Ouais. Et que Nice, mais ce sera notre dernière étape, d'ailleurs, de notre mini-tournée de municipale. Là où il y a le match, la guerre, Ciotti-Estrosi. On verra ça lundi prochain. En attendant, les Lyonnais, tout à l'heure, vous prenez la parole. Je sais que certains nombres d'entre vous ont déjà interpeller notre ami Anaïs Sainz là pendant les pauses pub pour prendre la parole, prendre le micro tout à l'heure à midi moins 20 et discuter avec les GG. N'oubliez pas le 7-32-16 en envoyant vacances pour gagner des vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne. Ce sont les séjours Bellambra. C'est du premium all inclusive, comme on dit ici dans la banlieue de Lyon. C'est du tout compris. On comprend à Vierzon all inclusive ou pas, Bruno Poncet?
Je répondrai pas à cette attaque basse. Et moi, je suis à Nice lundi. On va voir un petit peu si t'es populaire là-bas. Moi, je suis pas sûr.
Les amis, vous voulez gagner des vacances? C'est un séjour tout compris dans l'un des 45 clubs Bellambra. C'est pour vous. Vous choisissez la mer, la montagne, la campagne. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Il y a juste à envoyer vacances par SMS au 7-32-16. Vacances par SMS au 7-32-16. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. Dernière heure des GG, on a pas mal de choses à se dire. Midi moins 20, les Lyonnais prendront la parole. À 11h20, le travail au noir, l'État va lancer une grande campagne de lutte contre le travail au noir. Pensez un peu. Oui, il y a des milliards à récupérer pour combler le déficit. Alors là, est-ce que c'est mission impossible de lutter contre le travail au noir? Pour certains, le travail au noir, c'est un deuxième boulot pour pouvoir vivre, mais même survivre. Bien sûr, dit Barbara Lefebvre. Mais on en parlera tout à l'heure à 11h20. En attendant,
Bruno Poncet travaille au noir au GG.
Non.
On le paye en liquide.
On le paye en liquide. Mais
et en soda.
Coca, Light.
Je ne suis pas payé très cher, j'avouerais.
Déjà, tu as un CR de cheminot.
Tout à l'heure, à 11h20.
Déjà, en attendant, t'es là, c'est déjà bien.
On va s'intéresser une fois de plus, et je serais tenté de vous dire, malheureusement, à la violence au couteau entre jeunes, c'est ce qui s'est passé à Bron. Ah, nous sommes à quelques encablures d'ici, hein. Nous sommes à Bron, ça s'est passé devant un lycée. Ce sont des jeunes de 15 ans, plutôt un, qui a reçu un coup de couteau. Il a été hospitalisé en urgence absolue et son agresseur est toujours en fuite.
Oui, c'est un élève de 15 ans, il est en seconde. Il a été poignardé au niveau des aisselles, c'est ce qu'ont dit les pompiers qui sont arrivés sur place. L'agresseur a pris la fuite. Donc une fois plus, on se retrouve avec une attaque au couteau qui touche des adolescents, des mineurs, sans doute sur fond de règlement de compte. Alors parfois c'est pour des choses assez futiles, hein. C'est ça qui est dramatique, mais on n'y arrive pas parce que souvenez-vous, Madame Borne, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale, elle avait lancé un grand plan couteau. Il fallait fouiller les sacs, alors il y avait des fouilles aléatoires, ça existe toujours, et récupérer des couteaux. D'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'à chaque fois qu'on fait des fouilles, on retrouve des couteaux dans les sacs des collégiens ou des lycéens. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut une vraie prise de conscience? Où malheureusement il y a une fatalité et on va égrener comme ça la liste de ces jeunes qui se retrouvent entre la vie et la mort à cause d'un coup de couteau.
Bruno, déjà avant de fouiller quand tu arrives à l'école, c'est peut-être de fouiller quand tu pars de chez toi.
Donc c'est aux parents.
Déjà les parents seraient bien un petit peu qu'ils se rendent compte. Je sais, un gamin de 15 ans, et moi j'en étais un gamin de 15 ans, tu fais tout pour cacher des trucs à tes parents. Moi je fumais déjà des joints, je crois aussi, malheureusement. Mais je fumais.
Alors ecstasy, des
non,
joints.
Non, mais ecstasy c'est un peu plus tard.
Ah bon.
Ecstasy, j'étais quand même beau. Ouais, c'est ça, 16-17 ans. Non, mais en fait, il y a aussi à un moment donné, on peut toujours.
Salut ta maman.
Oui.
Sainte femme.
Oui, qui si elle nous écoute. La pauvre. Non, mais moi, je sais pas, parce qu'en fait, on est toujours en train de remettre tout le poids sur l'école. Mais l'école n'est pas là pour éduquer les gamins. Elle n'est pas là pour faire la police. Elle est là déjà pour les éduquer, pour leur enseigner des choses. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudra quand même faire le ménage chez soi. Et donc.
Donc, aux parents de faire gaffe à leurs enfants.
Et surtout que rarement le gamin te plante avec un opinel ni avec un couteau suisse. Il te sort un couteau de boucherie de 30 cm, comme ça arrivait la dernière fois. Et en fait, le couteau de boucherie de 30 cm, à moins que le gamin soit apprenti boucher, ce qui est très rare, non. Il le sort
le
bien de la
cuisine.
Ouais, le couteau de cuisine. Non. Il le sort plutôt de chez sa mère. Donc ou de son père, si c'est lui qui fait la bouffe. Donc en fait, moi, je ne peine à comprendre qu'on est toujours en train de dire oui, c'est l'école. Non, non. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que les parents fassent le taf. Et puis si on en arrive à faire comme aux États-Unis, avoir des portiques pour empêcher que les gamins arrivent avec des armes, je crois qu'on va toucher le fond dans pas longtemps. Et malheureusement, on y est. Et je n'arrive pas à comprendre que ça nous émeuve pas de voir un gamin de 15 ans encore au sol avec du sang qui coule de sa poitrine. Je ne comprends pas que ça nous arrive. Et nous, aux grandes gueules, c'est pas. Je pense que c'est au minimum une fois par semaine qu'on a un truc comme ça à commenter. Je crois que c'est le pire moment qu'on peut avoir dans l'émission, c'est de commenter la mort d'un gamin de 15 ans devant une école. Je sais pas comment on peut trouver ça commun, mais je ne comprends pas. Quand Borne arrive, elle dit qu'elle y connaît rien à l'éducation, peut-être qu'elle y connaissait peut-être un peu plus dans la sécurité. Mais aujourd'hui, comment on fait pour que, à un moment, responsabiliser les parents pour leur dire ton gamin, comment il peut sortir de chez toi avec un couteau de boucher? C'est juste ça, j'arrive pas.
Emmanuel.
Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut, compte tenu des évolutions depuis quelques années, envisager d'urgence un cadre juridique spécial pour les attaques au couteau, de l'ordre des armes à feu, parce que c'est tellement dangereux. Ça se multiplie avec des statistiques considérables en France maintenant. Il faut donc que les lois pénales soient profondément modifiées.
Ce sont des mineurs. Mais peu importe.
Non, mais il faut arrêter d'excuser les mineurs, etc. Jusqu'à un stade qui deviendra dissuasif, c'est-à-dire que une attaque au couteau, 5 ans ferme minimum, même si c'est simplement brandir le couteau de manière objective, les gens vont quand même finir. On va déjà élaguer un certain nombre de tentatives. Et le deuxième point, et là c'est une question que je pose. Alors personne n'en parle parce que maintenant il y a 25 000 avocats au barreau de Paris. Les avocats sont devenus les informaticiens. C'est les nouveaux smicards, voire les nouveaux prolétaires, parce qu'il y a plus d'avocats que de procès bientôt. Mais est-ce qu'on peut encore s'offrir le luxe de ce qu'on appelle les 3 niveaux de juridiction en France, c'est-à-dire le premier tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation? Ça dure 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Pendant ce temps-là, ça coûte à la société. C'est ingérable, c'est tout bouché. Pour toutes ces attaques pénales, maintenant, il va falloir venir sans doute à 1 degré de juridiction.
Pas d'appel, alors.
Pas d'appel, le cas échéant. C'est jugé par des juges spécialistes. Il y a des flagrants délits. Faut arrêter d'excuser tous ces délinquants et de rendre la justice impossible et d'exposer tous les Français à ces criminels.
Barbara.
Oui, alors je ne vais pas proposer de réforme aussi radicale de la justice. Je pense que quand même on a besoin du deuxième degré de juridiction, ne serait-ce que pour faire appel lorsqu'on a été injustement condamné. Néanmoins, le problème aujourd'hui qui se pose sur la question des couteaux, c'est en train de devenir un code.
Oui, c'est vrai.
Donc ça, c'est un problème. Parce qu'on nous dit, oui, mais de tout temps, les bandes, on a eu des opinels dans nos sacs, etc. Ok, mais le jeune loubard des années 60-70 qui se baladait avec un opinel, ouais, il le sortait pas régulièrement pour l'ouvrir, pour planter sa prof, parce qu'elle lui avait mis un mot. Ouais. Et j'ai une pensée pour notre collègue qui se remet très difficilement de ses blessures. Elle est encore gravement hospitalisée et son état est encore très précaire. Le jeune... Allez, ça y est, on n'en parle déjà plus. Moi, c'est ça aussi qui m'inquiète un petit peu et qui m'agace profondément. C'est que dans la presse et nous, les médias, bien sûr, on peut pas toujours réagir et faire le suivi. Mais moi, j'aimerais bien ensuite qu'on vienne nous raconter ce qui s'est passé ensuite dans les prétoires et notamment d'entendre les plaidoiries de certains avocats de la défense qui vont nous faire chialer encore sur oui, mais alors son papa, sa maman, gna 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 gna. Moi, je suis désolée. Il y a des parents qui n'ont pas fait leur travail de parents et il y a des jeunes qui ont un grave problème aujourd'hui d'impulsivité, de gestion de leur frustration et de gestion de leur violence et de leur colère. Et moi, je suis désolée, mais civiliser un enfant, c'est l'éduquer et c'est justement lui permettre de contrôler ses pulsions. Donc, un loubard des années 60-70 qui avait un opinel dans son sac, il avait peut-être, pour certains, la capacité et l'éducation d'avoir la maîtrise de ses pulsions. Aujourd'hui, on a une jeunesse en partie, bien sûr pas toute la jeunesse, encore heureux, mais on a une partie de la jeunesse qui, apparemment, n'a pas reçu dans le cadre éducatif les codes qui leur permettent de comprendre que quand on n'est pas content de quelque chose, ben on plante pas la personne qui est en face de nous. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah oui,
donc
mais
c'est quelque chose de plus grave. Alors c'est-à-dire,
non, mais parce qu'ils ont ces mots
de frustration non maîtrisée.
Je vais la planter, oui, je vais le planter. Mais comme on plante un couteau dans une pomme, c'est pas comme ça de planter quelqu'un dans le ventre, de planter quelqu'un sous les selles, ça va direct au cœur. Elias, c'est comme ça qu'il est mort quand même. Hein. C'est un coup au niveau du cou et c'est descendu tellement profond que ça a tranché la carotide. Donc Je veux dire, ces jeunes-là sont complètement déstructurés à cause d'un manque d'éducation parentale. Donc moi, je suis désolée, je poursuivrai aussi systématiquement les parents et avec des amendes dissuasives. Et il n'y a pas de « ils ne sont pas solvables ». On est toujours un peu solvable, ne serait-ce que des allocations déjà. Au revoir les allocations. Et même si tu gagnes un SMIC, ben on te prend proportionnellement à ton SMIC pendant 30 ans. Et ça, ça va peut-être calmer. Quand on l'aura fait sur 10, 15, 20 parents et qu'on l'aura bien fait savoir, peut-être que les parents aussi vont se responsabiliser et les sanctions oui. vis-à-vis de ces jeunes. Mais aujourd'hui, c'est devenu un code. Et je suis désolée, cette civilité-là, la civilité du couteau, ben c'est pas notre civilité à nous et c'est pas le code, les codes d'une société civilisée régie par le code civil et le code pénal.
Les réponses qu'on apporte sont des réponses finalement. On gère les conséquences, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter.
On ne fait que ça, de parler.
On essaie d'éviter que les couteaux rentrent à l'école. Bon, après, ça a des limites parce qu'on voit bien que ce jeune, c'est pas à l'école qui a été poignardé, c'est en dehors. Donc,
c'est juste devant le lycée.
Voilà, c'est juste devant
le lycée. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce ne soit plus un code dans la jeunesse? Il y a une partie de la jeunesse qui est gangrénée par ce code culturel du couteau et du je te plante. Mais excusez-moi, il y a un travail à faire. Ce travail, il est à faire par la justice, par la police, en partie par l'éducation nationale. Mais nous, on peut juste essayer de les instruire pour qu'ils pensent un peu par eux-mêmes et qu'ils pensent d'une autre façon que celle de l'impulsivité de la violence. Mais excusez-moi, l'essentiel du boulot, c'est les parents. Je suis désolée, on y revient toujours, c'est les parents.
Justement, on a Steve qui veut intervenir, il est à Paris. Steve, bonjour, bienvenue dans les GG. En fait, aujourd'hui, plus globalement, c'est plutôt la violence de la société qui vous inquiète au quotidien.
Bonjour les GG, merci de nous laisser intervenir. Écoutez, je suis à moitié surpris encore une fois, c'est qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un drame. On appelle ça des RICS, mais c'est pas des RICS, c'est des règlements de compte, parce que quand on a 15 ans et on sort de la maison avec un couteau, c'est pas pour rien. On va pas se bagarrer, mettre un coup de poing ou autre, c'est qu'on vient mettre un coup de couteau. Et ils savent très bien où planter, dans la gorge. Là, il a mis un coup de couteau dans l'aine. Il sait très bien, ils savent très bien placer les coups, parce que c'est avec les réseaux sociaux. En plus, c'est des abrutis, parce que les mecs, après, ils se filment, ils partagent leur exploit, parce que pour eux, c'est du bad buzz, c'est de l'hyper-violence. Ça. Et en fait, je pense que la justice, encore une fois, est trop laxiste. C'est qu'en fait, vu qu'ils sont mineurs, ils savent très bien qu'ils vont pas aller en prison. Alors, il faut mettre des mesures, des établissements.
S'ils iront en prison.
Alors, aux États-Unis, il y a eu à une époque de l'ultra-violence, même pire que ça, avec des armes. Ils ont créé des bootcamps où, en fait, quand tu fais une connerie, t'y vas un mois, tu recommences, t'y vas deux mois, et au bout de deux fois, tu vas en prison réellement. En fait, là, ils sont pris. Ils font deux heures de garde à vue et c'est papa maman qui vont venir les chercher quand il y a papa et maman. Mais en fait, c'est pas normal. Moi, j'ai un garçon, il a 7 ans, il est au centre de loisirs. Mais j'angoisse d'avance quand il va être ado. Je me dis, mais en fait, à n'importe quel moment, pour une futilité, il peut prendre un coup de couteau et c'est des vies qui sont brisées. Donc les parents n'ont rien demandé. Mais l'éducation, il n'y a plus le respect des professeurs, il n'y a plus le respect de la police. Moi, à mon époque, on prenait le bus avec mes copains, on mettait la musique dans le bus. Mais quand il y avait un papa qui venait, « Eh les gars, vous baissez tout de suite. » On ne mouffetait pas. On l'a fermé, on disait « Pardon monsieur. » Et basta. Là, c'est du n'importe quoi. C'est toutes les semaines où il y a des drames, des familles brisées, pour encore des futilités. Et c'est de pire en pire. Voilà, c'est de pire.
Oui, donc ça, c'est quelque chose de plus général. Alors peut-être effectivement, on peut renforcer la justice, notamment la justice des mineurs, avec cette fameuse excuse de minorité qui est en place.
Pour le moment, elle est pour les 16-18.
Mais elle est jamais levée en fait. Elle est quasiment jamais levée. Donc certains disent qu'il faudrait inverser les choses, c'est-à-dire qu'il faudrait pas d'excuse de minorité, et il faudrait justifier de l'utiliser. Après, ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est un problème sociétal, puisque Barbara nous dit c'est une question de code, de culture. Là, Steve, il dit c'est finalement de respect de l'autorité de générale.
Le code civil fixe les règles de l'autorité parentale. Les parents ont une autorité sur leurs enfants. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Moi, je ne trouve pas normal que c'est normal de sanctionner l'auteur des faits, donc un mineur, il est auteur des faits, il est sanctionné. On devrait automatiquement appliquer également une sanction aux parents.
Mais les parents vont te dire on était dépassés.
Non. Si t'es dépassé, dans ce cas, tu te fais aider. On vit pas quand même dans un pays sous-développé. La justice des mineurs, le mineur protégé, le mineur victime. Il y a énormément d'actions de la part de la justice pour aider les parents. Il y a ce qu'on appelle l'assistance éducative, etc. Si, il y a des mains qui sont tendues dès la petite enfance à des parents. Donc, c'est pas vrai. On n'est pas aidé, on n'est pas machin. La France, c'est le pays qui aide le plus. Seulement, il y a des gens, ils sont rétifs. Ils ne veulent pas que l'assistante sociale vienne. Ils ne veulent pas de mesures d'assistance éducative. Donc, moi, je suis désolée. Des parents qui n'ont jamais accepté les mains tendues et dont les enfants viennent pourrir la vie des autres. Je suis désolée. Les parents doivent être aussi sanctionnés. On ne sanctionne jamais les parents.
Merci, Steve, d'avoir aidé. été dans les GG, dans les grandes gueules. Merci à vous. Avant de... Vous allez voir, on a encore un bon petit sujet de discussion dans un instant, parce qu'on va parler du travail au noir. C'est-à-dire que le gouvernement va intensifier la lutte contre le travail au noir pour essayer de récupérer le plus d'argent possible. Ça, c'est dans quelques minutes. Vous pouvez commencer déjà à appeler le 32-16, bien évidemment, pour intervenir dans les GG. Mais on va accueillir Martine, qui est avec nous, qui nous appelle de Loire-Atlantique. Enfin, plutôt, Martine, c'est vous qui avez été tirée au sort et qui gagnait les vacances Bellambra, Martine. Bonjour.
Ah, super, merci. Bonjour. Bah écoutez, bonjour à toute l'équipe, je suis très ravie, hein. Franchement, ça fait très plaisir. On vous écoute tout le matin avec mon mari, voilà.
Bah Martine, félicitations, votre fidélité au GG et c'est votre petit coup de chance du jour. Oui. Vous partez en vacances Bellambra, en famille ou entre amis, dans un des 45 clubs Bellambra, sera la mer, la montagne ou la campagne. Un séjour all inclusive, comme on dit, tout inclus. Vous n'aurez rien à débourser, vous serez aux petits oignons avec les équipes Bellambra, Martine.
Bah écoutez, merci beaucoup et un petit bonjour particulier pour Barbara, qu'on adore.
Merci beaucoup, moi, merci voilà, infiniment.
Oui, et puis bah écoutez, vous continuez comme ça.
Profitez de vos vacances, Martine.
Merci beaucoup.
Merci Martine, profitez de vos vacances et on aura encore des séjours Bellambra à gagner demain, bien évidemment.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le gouvernement qui veut intensifier la lutte contre le travail au noir, mission impossible ou pas le travail au noir. Est-ce qu'on en a besoin? À tout de suite avec les GG au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Allez Lyon, on est encore avec vous jusqu'à midi en direct ici du Palais de la Bourse. Les amis, on compte sur vous pour prendre la parole tout à l'heure. Je sais qu'il y en a 3 ou 4 d'entre vous qui se sont inscrits pour midi moins 20 pour prolonger nos sujets de discussion, pour discuter avec les grandes gueules, avec Bruno Poncet, Emmanuel Devilliers et Barbara Lefebvre. Ça, c'est dans un quart d'heure en direct avec les Lyonnais. En attendant, le grand débat des municipales ce soir, 20h50, en direct sur BFM TV et BFM Lyon, avec tous les candidats qui sont... avec la mairie en ligne de mire, bien sûr, et ce sera surtout l'occasion de voir Jean-Michel Aulas en débat, face notamment à Grégory Doucet et ses autres adversaires. En attendant, on va s'intéresser à ce que veut faire le gouvernement, traquer l'argent au noir. Je me souviens qu'à une époque, on disait que le travail au noir, c'était un sport national en France. Faire un peu de black, un peu de liquide, dans tous les cas, dans un pays qui est surendetté, dès qu'on peut récupérer un peu de pognon, eh ben on va aller voir ce que font les Français.
Et ça marche, parce que la France est un pays de contrôleurs et d'inspecteurs, et notamment l'URSSAF. Et l'URSSAF a très bien travaillé, puisque l'URSSAF vient de récupérer 1,5 milliard d'euros de cotisations éludées en 2025. C'est un niveau inédit qui met en lumière effectivement l'ampleur du phénomène. Donc bravo l'URSSAF qui fait bien son travail et qui va continuer, puisque M. Lecornu a dit qu'ils allaient traquer celles et ceux, je reprends l'expression politique, faut toujours dire celles et ceux qui ne restent que pas les règles. Et donc il y a de l'argent à se faire. Alors le trio de tête des secteurs qui fraudent le plus, on le connaît, c'est le BTP, les services aux entreprises ou encore le commerce, avec un schéma classique. On déclare quelques salariés alors qu'en fait ce sont des équipes beaucoup plus larges qui travaillent réellement et on essaye aussi de recouvrir des montages de sous-traitance plus ou moins complexes pour déjouer. Alors est-ce que il faut effectivement traquer ce travail noir et dire allez l'URSSAF encore plus vite, encore plus haut, plus fort, ou vous dites ça révèle quelque chose, peut-être que nos entreprises sont assommées d'impôts, de cotisations et
bien
qu'ils essayer de trouver les moyens de déjouer tout ça.
Juste un petit truc, l'autre soir en rentrant en taxi.
T'as été contrôlé ?
Non, mais au moment, tu sais, maintenant tu sors ton téléphone, et puis le chauffeur taxi, tu sais, avec une espèce d'air désespéré, me dit, n'auriez pas un peu de cash ? Et je lui dis non, il me dit, bordel, pardon. Il m'a dit, aujourd'hui plus personne n'a de cash. Il dit, moi ça m'arrange pas. Ouais. Je lui dis, mais ça vous arrange pas, pourquoi ? Il me dit, parce que en fait, le cash, c'est ce qui me permettait simplement de faire un petit plus à la fin du mois, d'être un peu moins taxé, quoi.
Voilà. La question, c'est qu'on vit surtout dans un pays surimposé. Mmh. Et donc, si on n'était pas surimposé, on n'aurait pas aujourd'hui 8 à 10 milliards de manque à gagner pour la Sécu en termes de cotisations sociales, parce que c'est ça le coût, en fait, du travail au noir. C'est 10% du PIB, 40 milliards par an, estimé. Et l'URSSAF, l'année dernière, a récupéré 1,6 milliard. Donc, elle a encore du boulot, l'URSSAF. Hein. Aujourd'hui, tu l'as dit, hein, BTP, hôtellerie, restauration et services à la personne. Et parmi les services à la personne, les VTC, on estime environ à 60% le niveau de fraude. Et les livreurs, c'est 70%. Voilà. Ben, pourquoi? Parce que VTC livreur, d'abord, VTC, il y en a tellement que c'est la guerre pour réussir à sortir un peu de salaire. Les livreurs, ben, excusez-moi, mais c'est l'esclavage moderne, hein, pour venir amener les sushis et les pokéballs des feignants qui sont pas capables de sortir. Donc, ben, c'est des gens qui, non, mais en plus, c'est des gens qui vraiment vivent de, c'est la misère aujourd'hui. C'est vraiment l'esclavage moderne, les livreurs. Donc, encore heureux qu'ils essaient de tirer un petit peu, vu ce qu'ils sont payés par les grandes plateformes.
Mais là, moi, je suis en train de justifier la fraude.
Et oui, le travail au noir aujourd'hui. Mais ils n'ont qu'à alléger les impôts. S'ils allégeaient les charges sur les entreprises, il y aurait moins de fraude. Et regardez, non, mais attendez, soyons honnêtes. Si on fait un sondage ici, on a tous fait des travaux à la maison.
On a payé une partie liquide.
Vous avez vu la différence entre payer les travaux, taxés, pas.
Moi,
je vais vous donner un exemple. Il s'avère que j'ai eu un problème avec ma serrure. Je voulais refaire uniquement le canon de la serrure, hein, d'accord. Si je passais avec un artisan, j'en avais pour 1 200 €. Alors que si j'achetais moi-même le canon, c'était 400 €. Je n'avais plus qu'à payer la main d'œuvre. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et quelque part, j'ai pas fait travailler un artisan serrurier, mais ça me coûtait 1 200 €. Alors que là, j'ai payé 400. J'ai acheté moi-même la matière première, on va dire, et j'ai uniquement payé le déplacement et la main d'œuvre. Donc que ce pays et ses dirigeants allègent les charges sur les entreprises, et ils verront, on asséchera un petit peu le travail au noir, mais de toute façon le travail au noir, ça a tout
Emmanuel, et puis ensuite on va voir Rulio qui est tatoueur. Alors lui, c'est 40% au black, hein, au moins c'est réglé, même plus d'ailleurs.
Vous verrez, il vous parlera de ses charges.
Voilà. Bah, c'est un peu un aveu supplémentaire de l'inefficacité du gouvernement qui n'a aucune vision globale de la politique française, qui ressort ça. Parce que le travail au noir, on en parlait déjà il y a 50 ans. C'est un truc. Et les administrations sont quand même efficaces. Donc bien sûr,
à l'époque, on était qu'à l'argent liquide. Hein.
Oui, bien sûr qu'il y a de la fraude, mais il n'y a pas tant d'argent que ça à récupérer, parce que les gens qui travaillent au noir, de toute façon, si on les assujettit, l'activité s'arrête.
Sachant que ce travail au noir, payé au noir, c'est quand même de l'argent qui revient dans l'économie.
Exactement.
Parce qu'après, les gens consomment.
Il faut souligner que le chèque emploi-service pour les particuliers, comme nous sommes, a été inventé aussi il y a très longtemps.
C'est Jean-Louis Borloo qui avait mis ça en place.
C'était l'ancien président de la région Île-de-France, même à la toute origine. Maintenant, il s'appelle le CESU. Et l'administration a beau jeu de démontrer, alors c'est toujours un peu contestable quand on fait ses propres calculs, que finalement, c'est plus rentable de payer les charges avec le CESU, compte tenu de l'argent fiscal qu'on récupère, que de payer au noir.
On a Julio donc, qui est avec nous, qui est tatoueur. Bonjour Julio, bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Est-ce que vous pourriez vous passer du liquide alors, et du black?
Honnêtement, pas du tout. Honnêtement, alors je vais expliquer un petit peu ma situation. Moi, ça fait 10 ans que je suis tatoueur. Alors avant, j'avais une boutique, donc j'avais un loyer, des charges, tout ça. Là, maintenant, ce qui est mieux, c'est que je travaille chez moi, donc en salon privé. Et en fin de compte, à l'époque où je devais payer un loyer, donc vous imaginez que, en fait, on me prend 30% de mon chiffre d'affaires, plus mon loyer, mes charges. Quand je vois ce qui me reste à la fin, si je n'avais pas de liquide, autant que je retravaille pour un patron et que le jour si ça vient fermer ou quoi qu'est-ce, j'ai du chômage, du Pôle emploi. Parce que moi, comme je vois ma situation maintenant, c'est que si je viens me casser la gueule, j'ai rien du tout. Donc il y a le
Donc vous déclarez combien sur ce que vous gagnez?
Honnêtement, je déclare 40%, 45%, grand max.
Ah oui, seulement.
Et ça, ouais, du coup, votre blague, ça vous rapporte combien par mois?
Je suis environ, sans se cacher, 2 500-3 000 €.
Ah oui, donc ça c'est pas déclaré les 2 500-3 000 €.
Ah non, pas du tout.
Oui, mais ces 2 500-3 000 €, vous les réinvestissez dans l'économie.
Alors
oui,
mais Julio paye l'intégralité de ses charges avec son argent autre.
Mais vous voyez là, alors
de toute façon, moi Julio,
ce que je déclare en fin de compte, c'est ça passe après pour mes consommables, mes assurances, tout ça. Moi après le liquide, là vous voyez par exemple, j'ai dû refaire des gros, très gros travaux qui touchent au toit de la maison. La personne qui est intervenue a accepté aussi du black. En fait, on fonctionne tous comme ça. On n'a vraiment pas le choix. Si je devais déclarer tout ce que je faisais, mon chiffre d'affaires, mais je vous avoue, hein, je ferme ma boutique et je retravaille pour un patron.
Bien sûr.
Julio,
du coup,
ça reste illégal. Bah,
c'est,
le rappeler,
oui, bien sûr, mais c'est pénalisant, justement, ce que j'allais
alors,
dire.
Alors oui, attention, je suis d'accord, c'est totalement illégal. C'est totalement illégal et j'invite à personne à faire ce que je fais. Attention.
Mais comment vous allez faire, effectivement, comme le dit Alain,
bah, il met de côté.
Oui, mais vous ne cotisez pas pour votre retraite. C'est, enfin, si vous mettez de
alors,
côté, mais
c'est jamais, alors, avant d'être tatoueur, je faisais un autre métier où là, j'étais salarié. Donc j'ai cotisé pendant une grosse dizaine d'années. Après, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Après, moi, j'ai souscrit.
Une dizaine d'années, ça ne rendra pas une retraite.
Oui, non, bah non. Après, il y aura le minimum retraite. Minimum, après, et j'ai de l'argent de côté. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix.
D'accord,
après,
vous avez quand même, vous avez 39 ans, c'est ça? Vous faites vos calculs, vous dites bon, en mettant de côté avec ce minimum retraite, finalement, j'arriverai à avoir suffisamment
après,
pour arrêter de travailler.
Pour être totalement honnête, je roule pas sur l'or, mais les deux véhicules qu'on a, moi et ma femme, sont achetés à crédit. Le leasing nous sert à manger. Alors oui, on part une fois par an en vacances et on va pas loin. On reste dans la zone euro et c'est tout. Et on fait des travaux et l'essentiel des travaux. J'ai pas le choix.
Alors, Julio, je comprends, vous n'avez pas le choix.
Il y a Bruno Poncet qui est son client, premier client de Julio.
2500 euros par mois de travail au noir.
C'est pas ton
tas. Vas-y, Bruno, un mot avant qu'on accueille Antoine des Hautes-Pyrénées.
Moi, ce que Julio vient de dire, moi, j'ai mon meilleur ami qui est mon tatoueur et on parle souvent et qui a un salon à côté de Bastille et qui, en fait, depuis, je crois, plus d'un an, ne se paye pas. Donc en fait, tout ce qu'il fait, et il le fait légalement, en fait, lui, il fait ça avec un TP, un machin, et en fait, il me dit que ça va juste pour payer son loyer, pour payer les charges, parce qu'en fait, ils sont assommés de charges, et encore plus en région parisienne, et à Paris même, où ton loyer est exponentiel. Et c'est pour ça que les prix des tatouages à Paris et en province, c'est différent. Et en fait, moi, mon pote, il n'arrête pas de me dire qu'il galère, et que plein de fois, il se dit, je vais arrêter, je vais aller tatouer au fin fond de la Creuse, parce que son talent, il l'aura toujours, mais là-bas, il aura moins de charges, ou il aura des charges beaucoup minimes. Après, moi, je pense qu'il y a deux types de travail noir. T'as le mec qui est plombier la semaine, qui est salarié et qui fait un peu de travail au noir le week-end ou le vendredi après-midi pour mettre des fois des épinards dans le beurre parce qu'en fait les mecs ils gagnent pas ouf.
Et puis t'as dans les épinards.
Non, c'est plutôt le contraire parce que vu ce que tu grattes avec ton salaire, t'as plutôt juste à de quoi te payer le beurre. Par contre, t'as aussi moi je pense que ce que l'État veut les chercher, c'est plutôt ces patrons voyous qui vont sur les parkings de Gédimat, de Point P, récupérer des gens, alors des vingtaines de personnes qui mettent à l'arrière du camion comme du bétail. Et souvent, ces personnes-là, ce sont des gens qui, malheureusement, n'ont pas de papier et qui, eux, par contre, vont aller faire des chantiers dangereux. Et on peut parler des Jeux Olympiques, on peut parler des chantiers du Stade de France. Moi, j'ai connu le chantier du Grand Palais de Justice à Paris où les mecs sortaient, c'était que des Tchétchènes. Il n'y en avait aucun qui parlait français, il n'y en avait qu'un, c'était que le patron. J'aurais bien voulu voir comment les mecs avaient été recrutés. Et en fait, c'est cela que les gens veulent aller chercher, en fait.
On va terminer avec Antoine, qui est employé de rayon dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour, Antoine.
Oui, bonjour.
Employé dans une grande surface le matin et puis le reste du temps au noir.
Voilà, mais moi je me lève à 3h du matin, je commence à 5h du matin, je travaille jusqu'à 11h, 11h30, et ensuite je rentre à la maison, je fais une petite sieste, je mange un petit bout, et à 1h30 je pars, j'ai des clients qui m'appellent, je fais de l'entretien parc et jardin, je fais des peintures, et je fais tout ça les après-midi, je travaille tout au black. Par contre, moi ce que je veux dire, c'est que moi l'argent, c'est je le réinjecte dans la société, je m'achète des outils, voilà. Je m'achète du matériel, je vais au restaurant, mais ça, je le réinjecte tout dans la société, je le garde pas pour moi, ça m'aide à vivre...
C'est pas pour aller investir dans les paradis fiscaux, bravo.
Voilà. Donc Antoine, vous dites, au lieu de s'acharner peut-être exactement sur des gens qui travaillent, oui, le gouvernement devrait prioriser, et notamment peut-être regarder ceux qui ne travaillent pas.
Mais c'est
parce
plus facile.
On sait très bien qu'en France, le problème, c'est pas ceux qui travaillent,
c'est
ceux
qui ne travaillent pas. Mais c'est plus facile de s'attaquer aux petits, toujours.
Mais Antoine, du coup, Antoine, je voulais continuer de voir avec vous ce travail en liquide. Ça vous rapporte combien par mois?
Eh bien, ça dépend, mais je gagne beaucoup plus l'été quand il y a beaucoup de travail. L'hiver, c'est un peu moins, mais il faut compter à peu près 1000, sur l'année, 1000 euros.
Enfin, et 57 ans, vous avez une sacrée pêche.
Attends, 1000 euros sur l'année, c'est pas assez.
Non, 1000 euros par mois. Mais voilà. À peu près, il y a des mois, je vais gagner 1200, 1500. Et l'hiver, je vais gagner 800, 700. Mais sur l'année, il faut compter 1000, 1200 euros. J'en travaille les après-midi.
Et moi, je me lève à 57 ans, il bosse.
Moi, je me lève à 3h du matin. et je commence à 5h du matin. Bon, j'ai un peu de route. Je commence à 5h du matin et après, tous les après-midi, je fais juste une sieste d'une demi-heure. Tous les après-midi, je travaille jusqu'à 5h.
Est-ce que vraiment la priorité, monsieur Lecornu, c'est de s'en prendre à Antoine?
Attends, une dernière chose, Antoine, parce que vous êtes employé de mise en rayon dans une grande surface. Du coup, votre salaire, il est de combien, le salaire officiel?
Il a dit 1200 boules.
Je gagne 1285 euros.
Donc, plus 1000 aux alentours de 1000 euros en moyenne par mois.
Oui, je fais à peu près 2400.
Peut-être que pour monsieur Hollande, il a dépassé le seuil de la richesse, mais la réalité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, c'est les petits sur qui il est facile de taper, surtout quand on a une administration comme l'administration fiscale. Quand on voit que pour un auto-entrepreneur, c'est 26% d'URSSAF plus l'impôt sur le revenu, à la fin, je suis désolé, il te reste plus de 40%.
Merci à Julio et Antoine d'avoir été avec nous. On verra ce que donne cette chasse au travail noir de la part du gouvernement. Et dans un instant, la parole aux Lyonnais pour conclure ici en direct du Palais de la Bourse. À tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Mardi 24 février, les grandes gueules sont en direct de Lyon, de la place de la Bourse, les amis, de ce palais de la Bourse qui est magnifique, qui est extraordinaire. Merci aux Lyonnais pour votre accueil depuis 9h ce matin, avec Emmanuel Devilliers, Bruno Poncé, avec Barbara Lefebvre. Ce dernier quart d'heure, on va le passer ensemble. C'est vous qui allez interpeller, discuter avec les grandes gueules. On va accueillir Pascal, Alexandra et Mickaël. C'est Pascal, taxi lyonnais, qui est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour les grandes gueules.
Avec un t-shirt vintage des GG. C'est un des premiers qu'on a eu. Là. Il date celui-là, effectivement. Mais
20 ans.
20 ans. Merci de votre fidélité. Et
Louis Gerbier était au collège.
Et le collège s'en souvient encore, mais il n'y est pas resté longtemps. Mon cher Pascal, vous vouliez revenir avec nous sur cette tension politique autour de ces groupuscules extrême droite, extrême gauche. Pourquoi vous vouliez en discuter avec les GG? Expliquez-nous.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Lyon n'a jamais accepté les extrêmes. À Lyon, on n'aime pas les extrêmes. Mais on les a. C'est factuel, hein. Il y a les extrêmes. On parle en ce moment beaucoup de l'extrême droite, mais on a une extrême gauche qui est aussi très virulente.
La jeune garde est lyonnaise. Hein,
mais beaucoup, si on remonte un petit peu plus loin, et je sais malheureusement de quoi je parle, on remonte au début des années 70. Il y a un mouvement qui a été créé à Lyon par un professeur de lettres qui était au lycée technique des Tchécoslovaques. Il s'appelait André Olivier. C'est le cofondateur d'Action Directe. Donc on a été vraiment à l'extrême extrême.
Ben c'est le paradoxe, parce qu'effectivement il y a ces mouvements extrémistes, et puis les maires de Lyon étaient plutôt en général des centristes à gauche ou à droite, mais enfin ça a toujours été très modéré.
Alors on a des maires qui ont été, on va dire, centristes, mais non. Gérard au début, Collomb. Gérard Collomb, quand il était jeune, il était trotskiste.
Oui.
Il a fini, comme je dis, pragmatique.
Oui, il a fini très pragmatique.
Et nous, période. Ce qu'on aime, c'est des maires pragmatiques.
Oui, c'est ça.
Michel Noir, qui était quand même très à droite, il est devenu pragmatique, c'était un très bon maire aussi. Hein, donc on ne regarde pas, nous, l'étiquette de ces gens-là, on regarde si ça peut être des bons maires. Après, on va voir ce qui va se passer là aux élections. Bon, on sait plus ou moins ce qui va arriver, hein, mais les extrêmes seront totalement exclus. Après, on va voir.
Je regardais le dernier sondage, par exemple, le Rassemblement National est à 6% seulement ici, à Lyon, au dernier sondage.
Quelle chance. Quelle chance d'avoir ça.
Et les filles, t'as 10.
J'espère que ni l'un, alors ça c'est mon point de vue personnel, j'espère que ni l'un ni l'autre sont au deuxième tour.
Non, mais ils sont en dessous de leur score national.
On verra s'il y a des alliances.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous ne voulez pas que Lyon soit uniquement caractérisé aujourd'hui par l'extrême droite et l'extrême gauche.
Ce qu'on entend dans les médias où on dit oui, c'est la capitale de l'extrême droite, etc.
Ça m'énerve totalement.
Oui.
C'est
faux.
On est complètement. Et on a une très très belle ville. Il ne faut pas qu'on en parle en mal. On a, pour les touristes, pour les restaurants, vous en avez, je pense, profité.
Oui, puis c'est une ville dynamique.
Tout ça, c'est une ville qui bouge. L'économie, elle bouge. On a le problème aujourd'hui, malheureusement, de la circulation.
Ah.
Je sais de quoi je parle. C'est mon métier.
Oui.
D'après les verts, il y a moins 19 de véhicules en moins. Oui, et pourtant, on est la ville la plus encombrée de France.
Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de l'université, vous disiez ici à Lyon, il y a quelqu'un qui a fondé Action Directe, mais il y avait un prof d'université qui était connu pour révisionnisme.
Forisson.
Il est toujours en vie, Forisson.
Il y en a un qui a été exclu parce qu'il était révisionniste.
Oui, bien sûr.
Tout à fait.
Non mais je crois aussi, sur l'affaire de Quentin, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est dit régulièrement, le Front National c'est une chose, et effectivement les accointances du Front National, notamment les amitiés qui auraient pu exister avec Monsieur Forisson, même si Monsieur Forisson est finalement devenu très ami avec Dieudonné, donc on voit bien que extrême gauche, extrême droite, quand il s'agit aussi de déverser la haine, notamment antisémite, il se retrouve, mais je rappelle quand même que le Rassemblement National aujourd'hui n'a pas de lien avec les groupuscules d'ultra-droite qui font des saluts nazis dans les rues de Lyon. Donc j'aimerais quand même bien qu'on arrête d'essayer de laisser entendre que le GUD, les groupuscules nazillons de Lyon qui existent, ont des liens clairs et nets avec un parti politique, alors que pour la Jeune Garde, il a un lien clair et net avec un parti politique qui s'appelle LFI. Ouais.
Merci Pascal d'être venu échanger avec les GG.
Juste un dernier mot, mais qui ne va pas vous faire plaisir, c'est sur les entreprises. Moi, je dis, il faut payer l'URSSAF. C'est les charges qui vont pas. Mais l'URSSAF, c'est nos retraites, c'est notre maladie.
Ouais, vous avez raison. Alexandra va venir discuter avec les GG. Merci, Pascal. Bonjour, Alexandra. Vous faites quoi dans la vie, Alexandra ?
Je suis graphiste.
Graphiste, et vous vouliez évoquer avec nous justement les programmes des élections municipales, en particulier la gratuité du transport. Ça, c'est une proposition de qui ?
Il y a deux candidats qui le proposent, Grégory Doucet, il me semble, et Jean-Michel Aulas. D'accord. Enfin, c'est plafonné pour Jean-Michel Aulas, il me semble, que c'est en dessous de 2 500 € par mois. Mais je pense que ça va détériorer complètement le service. Déjà qu'à Lyon et dans les alentours, quand on n'est pas dépendant d'un métro, quand on doit prendre un bus, c'est l'enfer. Il y a des embouteillages. Moi, par exemple, j'habite dans une petite ville à côté de Lyon. Je pourrais mettre 5 minutes en voiture et je mets 1 heure et demie en transport en commun.
Ah oui.
Donc, c'est absolument l'enfer.
Et vous dites que la gratuité, on va finalement se priver d'une manne financière qui pourrait aider à améliorer le service.
Exactement. Les salaires des chauffeurs n'ont pas évolué depuis environ 20 ans. Et on manque de personnel. Enfin, c'est factuel. Et aussi, je pense que... les TCL sont aussi dépendants des clients, donc il y a des lettres qui sont écrites quand un bus passe pas ou quand il y a un retard.
Le problème, TCL, c'est la RATP.
Voilà.
Ici,
Quand c'est gratuit, les clients, qu'il arrête son abonnement ou pas, on s'en fiche, puisque c'est gratuit.
Donc la gratuité, c'est la fausse bonne idée.
Oui, d'ailleurs,
c'est pas gratuit.
De toute façon, quand c'est gratuit, c'est toi le premier.
Ce sont les contribuables lyonnais.
Gratuité ou pas, pour ne pas le mettre en pensée.
La gratuité, en fait, c'est ça serait la gratuité quand elle est mise dans une ville, c'est en fait tes impôts locaux qui payent ta gratuité. Et le fait est, c'est on l'a vu à Dunkerque, on l'a vu dans plein d'endroits, quand ils ont mis la gratuité.
Montpellier, c'est gratuit.
Ça fait monter la fréquentation des transports. Et par exemple, Carole Delga rend les trains gratuits le week-end, vu que c'est les trains lui appartiennent, vu que c'est la région, et ça marche très bien. Le seul truc, c'est que c'est compliqué à mettre en position dans une grande ville comme Lyon, comme Paris, parce qu'en fait, il faut développer ton réseau, il faut moderniser ton réseau. Nous, on le voit à Paris,
beaucoup d'argent.
Où aujourd'hui, le pass Navigo est monté à 90 balles, alors que quand elle est arrivée, Pécresse, elle a dit ça ne montera jamais au-dessus de 50. Bam, aujourd'hui, c'est le double. Mais en fait, c'est parce que c'est pas transposable dans une grande ville. Dans des petites villes, oui. Moi, je sais qu'à
Montpellier, l'a fait.
Oui, mais Montpellier, en fait, c'est une ville où ça fait quelques années qu'ils ont sorti un peu les voitures et qu'ils ont vraiment développé les transports en commun, mais dans toute la région. C'est-à-dire que si tu fais les transports dans ta ville, mais que tout autour de chez toi, comme tu le disais, tout autour de chez toi, en fait, c'est pas développé. En fait, tu vas arriver à embouchonner ta ville elle-même et le reste, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça soit à la région. Ça doit être une position régionale. Ça peut pas être...
Châteauroux a été une des villes pionnières dans la gratuité des transports, me dit-on.
C'est une ville, Châteauroux ? Moi, je ne savais pas du tout.
Alors, allez-y, pardon, Alexandra, reprenez votre discussion.
Je pense qu'il faut plus se rapprocher d'un modèle comme Londres que d'un modèle comme Châteauroux. Mais je pense que c'est plus viable pour une ville comme Lyon. C'est-à-dire qu'il y a des. C'est vrai que les transports sont chers, mais il y a un service qui est vraiment qualitatif. Il y a des bus de nuit qui sont toutes les 10 minutes. On n'a pas forcément besoin d'un bus de nuit, mais déjà un bus de jour qui passe toutes les 10 minutes régulièrement sans...
Donc attention avec ces propositions un peu démagos. C'est-à-dire qu'effectivement, la gratuité, ça fait plaisir, mais derrière, ça a des conséquences, Emmanuel.
Je suis de votre avis. C'est une proposition qui paraît outrancière. Et
pourtant, c'est Aulas, ton ami. C'est ça qui est un peu bizarre. Qu'en penses-tu ?
Il va revoir son jugement.
Voilà. Dont on n'a pas les moyens, sauf à être un émirat.
Mais du coup, vous voudriez quoi en fait, un vrai mix qui fonctionne, quoi, c'est-à-dire bus, voiture, parce que
plus d'argent d'ailleurs. Sur...
Mais je pense que le programme, ce qui est proposé, certaines propositions du programme de Jean-Michel Aulas sont très bonnes, c'est-à-dire de mettre un métro et de mettre un tram, mais c'est pas finançable si les transports sont gratuits.
Ah oui.
Ouais, d'accord. Ben ce soir, ça sera au cœur du débat. Je le rappelle, 20h50, BFM TV, BFM Lyon, le débat des candidats. Ah, merci Alexandra. On va terminer. Merci d'être venu dans les Gigeons. On va terminer.
Merci Alexandra.
Avec Mickaël. Bonjour Mickaël, bienvenue.
Et bonjour les GG, bonjour la France.
Vous vouliez parler d'insécurité.
Exactement, bah c'est vrai que sur Lyon, l'extrême centre, c'est nous, étant jeunes, on pouvait se balader sur les berges, on pouvait aller boire un coup, il n'y avait pas de problème. Et là maintenant, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et ça, je parle d'il y a 20 ans où on était bien. Et maintenant, même sur les extérieurs, que ça soit, bon, on connaît bien Villeurbanne, Bron, Vaux-en-Velin, tout ça, ça passe sur BFM quasiment toutes les semaines.
Ouais, malheureusement.
Mais pourquoi ça s'est détérioré selon vous alors?
Ben, est-ce qu'il y a eu des politiques qui sont un petit peu focalisées sur autre chose? Et du coup, ils ont oublié aussi la sécurité. Bon, maintenant, Monsieur Doucet se réveille un peu, il veut mettre un peu des brigades. De sécurité à Lyon, parce que si j'ai bien entendu.
Il y a une police municipale à Lyon?
Oui.
Elle est armée?
Non, il est contre.
Non, je suis pas sûr.
Et des caméras?
Des caméras, il y en a. Alors, est-ce qu'elles restent longtemps?
Est-ce qu'elles sont
mais ça veut dire que vous, simplement, en tant que riverain, aujourd'hui, quand vous vous déplacez dans certains quartiers, vous êtes inquiet ou vous n'y allez pas?
Ah ben, vous demandez à n'importe qui, tout le monde connaît la Guillotière. Hein.
Ah oui, on en parle régulièrement.
On en parle aussi.
Mais moi, je suis surtout dans l'extérieur, je suis à Vernaison. Vernaison, déjà, il y a 5 ans, c'était très bien. Ça l'est encore. Mais là, il y a ces semaines dernières, par exemple, des mortiers qui ont été tirés dans un balcon. Le balcon a pris feu dans un immeuble où il y avait des enfants. Enfin, voilà, des vols de voitures, des poubelles qui sont brûlées.
Donc vous dites stop, quoi. Basta. Ben, on a vu les trois sujets,
ça sera un sujet, j'imagine, ce soir.
Justement,
mais est-ce que ce sont des jeunes, et notamment des mineurs, qui commettent ces méfaits?
Ce ne sont pas des retraités en général.
Non, mais on sait.
Nous, on les voit en bande.
Oui, en bande.
Avec leur
en bande, et plutôt des mineurs.
En bande, ils sont. Puis de toute façon, ils savent très bien, ils ont 13, 14 ans, ils sont toute infinité. Eh ben,
donc encore une fois, responsabilité des parents.
Merci, Mickaël. L'insécurité, les transports, les groupuscules extrême droite, extrême gauche. Trois sujets qui ont été abordés par les Lyonnais, par Pascal, Alexandra et Mickaël. Et ce sera dans le débat ce soir, 20h50, en direct sur BFM TV et BFM Lyon. Merci Lyon, salut.
Merci à vous.
À bientôt. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Dans Estelle Midi, on va débattre autour de la hausse des frais d'hospitalisation. Est-ce que c'est logique ou scandaleux? Eh bien, vous nous appelez, vous réagissez au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 06 12 424 424. On parlera également de cette petite phrase d'Hélène Mercier-Arnaud, l'épouse de Bernard Arnault, qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que c'est indécent? Là encore, on vous attend pour réagir. Et puis l'ouverture de 5 boutiques Chine en province, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous pourriez acheter du Chine dans ces boutiques? On en débattra à 13h30. Et puis, dernière question, à 14h, 51% des salariés ont leur meilleur copain au travail. Mais faut-il être ami avec ses collègues? On en débat avec vous dans un instant, dans Estelle Midi, avec Charles Magnin, Élise Goldfarb, Fred Hermel et Benjamin Hamard. À tout de suite.